12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Nous sommes ensemble avec Anissa jusqu'à 14h.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on va vous aider à vous déconnecter et surtout à vous passer des GAFAM, car il existe des solutions, elles sont françaises. C'est ça la France qui bouge et c'est dans une demi-heure, juste après votre grand journal. On vous attend.
Il est midi et demi. Le grand journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Canicule, jour 3. Aujourd'hui, on passe à nouveau à la vitesse supérieure.
Oui, ça commence vraiment à chauffer à l'heure actuelle. 65 départements en vigilance, les services de l'État mobilisés pour la prévention. Mais vous l'entendrez, Agnès Buzyn ce matin sur Europe 1 dit qu'il n'y aura pas zéro mort. À cela s'ajoute la pollution avec l'interdiction des vignettes 3, 4 et 5. Pollution contre laquelle on lutte d'ailleurs dans les écoles. Emmanuel Macron, pendant ce temps, est au Japon, visite officielle pour le G20, mais ce matin, il a beaucoup été question de Renault-Nissan et pas forcément de manière diplomatique. Dans ce journal également, le chef de la DGSI des Ardennes reconnaît une double vie avec une mineure. La photo bouleverse la planète entière, un père et sa fille noyés dans le Rio Grande. Ils venaient du Salvador pour tenter de rejoindre les États-Unis. Le Mirazur, le restaurant du chef argentin à Menton, est le meilleur du monde. Le foot féminin, Simon Rubin, a pu apercevoir un petit peu l'entraînement des Américaines. Et le cinéma, comme tous les mercredis avec Toy Story, mais aussi Eve, un film complètement barré avec Philippe Catherine. La météo, Elena Morna, on entre dans le dur de la canicule.
La chaleur gagne du terrain vers l'ouest et le sud-est avec 65 départements en vigilance orange canicule. On ira jusqu'à 41 degrés cet après-midi à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand. Plus frais en bord de Manche sous les nuages. À suivre, deux nuits et deux journées encore plus chaudes. Les ressentis oscilleront ce soir et en début de nuit entre 39 et 45 degrés.
Merci Elena. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
La ministre de la Santé, Pierre, très réaliste ce matin. C'était sur Europe 1, quant à la canicule et à ses conséquences.
Ouais, Agnès Buzyn a été très cash, comme on dit, mais c'est tout à son honneur. Pour elle, il ne peut pas y avoir de mort. Il ne peut pas ne pas y avoir de mort dans ce type d'épisode climatique.
Il ne faut pas se leurrer, des vagues de chaleur intenses, même si l'on prend énormément de précautions, chez des personnes très fragiles ou malades, peut entraîner des morts prématurées.
Donc il ne peut pas y avoir zéro mort à l'issue de cette canicule.
Il ne peut jamais y avoir zéro mort à l'issue d'une canicule, notamment chez des personnes très âgées et très fragiles. Nous essayons de prévenir au maximum, mais que chez des gens de 90 ans très fragiles, évidemment, cela aggrave la situation.
Voilà, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, invitée ce matin d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1. La réalité, toujours, ce sont 65 départements désormais en orange. C'est aujourd'hui, mercredi, que le mercure grimpe de plusieurs crans. Plusieurs régions sont identifiées. L'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Limousin, le Centre-Val de Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cette région bien précise, ce sont de véritables pics de chaleur qui sont attendus. Jean-Gabriel Bourgeois, on vous suit toute la semaine au centre de Clermont-Ferrand. Et vous me dites que là, bah, ça commence vraiment à devenir insupportable.
Ah oui, et je vous donne un chiffre pour vous en rendre compte, Pierre. La barre des 30 degrés a été franchie depuis 10 heures ce matin. On entre dans le vif de la chaleur plus tôt qu'hier et ça se ressent bien. Adèle travaille dans une boulangerie dans le centre et elle a l'explication.
Mais surtout sur Clermont-Ferrand, vu que ça fait quand même un effet un peu cuvette, donc la chaleur, une fois qu'elle s'engouffre, elle reste assez longtemps, donc c'est pour ça. Nous, ça va encore. Globalement, on est à peu près protégés. Il y a toujours quelques courants d'air autour de la cathédrale, donc on est plutôt bien placés.
Et à l'intérieur de la cathédrale de Clermont, célèbre pour ses pierres noires volcaniques, c'est un pur moment de fraîcheur pour ses touristes.
Oui, ça repose un petit peu, oui. Oui, il fait plus frais, c'est sûr.
Comme l'intérieur est particulièrement sombre, on se libère au niveau de la fraîcheur, on se soulage.
À une centaine de mètres d'ici, la place de Jaude est un peu un barbecue géant. On cuit en plein soleil, Mina et Mimi, deux retraités.
Infernal. Parce que c'est que du béton, là, il n'y a pas beaucoup d'arbres.
C'est intenable parce que ça reflète la chaleur.
Les chaleurs de 83, oui, on s'en souvient. C'était pas pareil, on le vivait mieux quand même. C'était,
c'est parce qu'on était plus jeunes.
Je dis pas que la chaleur n'était pas aussi intense, mais non, on le vivait pas pareil.
Juillet 83, il y a 36 ans, c'est le moment où il a fait le plus chaud ici à Clermont-Ferrand, 40,7 degrés, un record qui pourrait bien être pulvérisé lors de cette canicule.
Courage Jean-Gabriel et embrassez Mina et Mimi pour nous. Jean-Gabriel Bourgeois, envoyé spécial d'Europe 1 à Clermont-Ferrand.
Il est 12h34, vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et avec la chaleur, évidemment, Pierre, la pollution est arrivée.
On va le voir dans un petit instant au niveau de la circulation automobile, mais plus important encore, la pollution dans les écoles. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, mais qui aussi a été président du C40, cette alliance des pays engagés contre le réchauffement climatique, a décidé d'offrir à la ville de Paris 150 capteurs de pollution. Ces derniers seront installés dans les écoles les plus exposées. Victor Delande, vous vous trouvez à l'école élémentaire Lafayette dans le 10e. En quoi consistent ces instruments de mesure ?
Alors ces micro-capteurs sont installés dans la cour de l'école mais également devant l'établissement scolaire. Ça ressemble à un petit boîtier d'une vingtaine de centimètres. Sébastien Maire, délégué général à la transition écologique de la ville de Paris, nous explique justement à quoi vont servir ces capteurs.
Ces capteurs vont nous permettre d'avoir une meilleure connaissance du phénomène de pollution de l'air, en particulier dans les établissements scolaires et de petite enfance. On va à la fois tester une nouvelle technologie, des capteurs innovants, et si ça fonctionne bien, ils vont alimenter avec leurs données le système général de surveillance de la qualité de l'air d'Air Paris. Et en fait, c'est un outil d'aide à la décision qui permettra d'orienter les priorités pour les politiques publiques qui permettront de réduire le phénomène.
Grâce à ces capteurs, les familles pourront consulter en temps réel sur paris.fr les niveaux de pollution auxquels leurs enfants sont exposés. Pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui vient de le répéter à l'instant, il y a une urgence sanitaire, il faut agir, dit-elle. Selon l'Agence française de la santé, la pollution de l'air est responsable de 48 000 décès chaque année dans l'Hexagone, dont 6500 pour le seul Grand Paris.
Merci de ces précisions en direct. Victor Delande.
Sur les routes, Pierre, conformément à ce qu'a dit François de Rugy hier, le déclenchement de la circulation différenciée a bien eu lieu. Ça vaut pour Paris, mais aussi pour Lyon, pour Villeurbanne ou encore pour Annecy.
Oui, et même si à Lyon, l'avertissement est tombé assez tard hier, ce sont désormais les vignettes 4 et 5, mais aussi le critère 3 qui sont interdits en Ile-de-France. Le critère 3, c'est 60% des véhicules. En Rhône-Alpes, c'est même 65%, les deux tiers des voitures et des véhicules légers et des véhicules légers utilitaires. Jean-Luc Boujon, vous avez assisté au contrôle de police ce matin quai du Rhône dans le centre-ville et tout de même pas mal de verbalisation.
Effectivement, 17 PV dressés en moins d'une heure et des policiers pas vraiment là pour plaisanter ou même pour faire de la prévention. Les amendes sont tombées ce matin. Pourtant, c'est vrai que l'annonce, vous l'avez dit, de cette circulation différenciée a été faite tard hier et donc beaucoup d'automobilistes ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant. Eh bien, ça n'a pas du tout attendri les forces de l'ordre, écoutez.
Bonjour monsieur, police nationale, je vous laisse couper le moteur s'il vous plaît. Vous en l'occurrence, votre véhicule est catégorisé en 4, donc vous n'avez pas le droit de circuler. Donc du coup là vous allez faire l'objet d'une verbalisation, un montant de 45 €. Je vais pas vous immobiliser le véhicule du coup. Comme vous êtes juste à côté, je vais vous laisser circuler. Par contre après si vous êtes de nouveau contrôlé dans la journée, sachez que l'immobilisation pourra être prescrite.
Vous voyez, ça ne rigole plus, y compris vis-à-vis des professionnels. Ici, c'était un serrurier qui se rendait sur une intervention avec sa vieille camionnette. Comme si on était désormais passé dans une nouvelle époque dans la lutte contre la pollution. Évidemment, bah, les automobilistes ont râlé, surtout contre le manque d'informations d'ailleurs.
Non, j'étais pas au courant. Je me suis levé, j'arrive là, je prends une amende. Bon, bah voilà.
Ça vous énerve ?
Bah ouais, un petit peu. C'est vraiment pas génial.
C'est n'importe quoi, c'est même pas affiché. C'est n'importe quoi son délire à lui. On perd du temps déjà quand on est pressé. Et c'est pas ça qui va sauver l'humanité, on va dire.
Voilà, petit motif d'espoir quand même. On a croisé ce matin des automobilistes qui avaient laissé la plus vieille voiture au garage et qui avaient pris la plus récente, équipée de vignettes critères 1 ou 2. Donc ça commence peut-être un peu à entrer dans les mœurs.
Il y a des chanceux qui ont deux voitures. Merci Jean-Luc Boujon. Je rappelle le prix de l'amende, 68 pour une voiture, 135 pour un camion. En voiture ou à pied, vous allez peut-être faire les soldes aujourd'hui. Après les samedis de gilets jaunes, les commerçants comptent beaucoup sur cette période de promotion. Stéphane Place, chez vous à Bordeaux, la canicule, curieusement, ne freine pas les acheteurs.
Oui, énormément de monde dès l'ouverture des magasins ce matin dans la rue Sainte-Catherine où je me trouve, longue artère commerçante bordelaise que beaucoup de clients ont décidé d'investir avant les 40 degrés annoncés cet après-midi.
Ah ben, nous avons décidé de venir que ce matin et de repartir à midi. Et on reviendra quand il fera moins chaud parce qu'à l'après-midi, il y a le soleil en plus en plein sur la rue Sainte-Catherine.
Venir de bonne heure ce matin pour profiter un petit peu d'un peu d'air frais, profiter des soldes.
Après le repas, et ben, on rentre se reposer au frais. Et les remises, les magasins que j'ai fait, c'était directement 50%, donc ça va.
Alors, les commerçants s'attendent à voir effectivement moins de clients dans les prochaines heures. Canicule oblige, mais restent optimistes sur les ventes, comme l'explique Colin Michard, qui dirige un gros magasin de chaussures.
On vend énormément de sandales, donc qui est la chaleur pendant les soldes, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Il ne faudrait pas que ça soit excessif, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle après une saison qui a été très morose au niveau du temps. On a une saison très compliquée, les manifestations on a perdu énormément. En plus, la météo qui n'a pas été très bonne sur le printemps-été, on a intérêt à rattraper un petit peu la marge sur ces soldes d'été.
Et cette remarque d'une dame que je viens de croiser et qui résume finalement ce début des soldes, moins 50, moins 70 dans les vitrines et plus 40 au niveau du thermomètre.
Merci Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1.
Il est 12h39. Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Un important agent de la DGSI soupçonné de viol sur mineur. A tout de suite. Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Le chef des services de renseignement des Ardennes, Pierre, soupçonné de viol sur mineur.
Oui, nos confrères de l'Ardennais avaient révélé ses soupçons hier. Le procureur de la République a donné des précisions sur cette affaire ce matin. Guillaume Biais, bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais c'est une double vie de pédophile qui apparaît au grand jour.
Oui, les enquêteurs sont allés de découverte en découverte dans ce dossier. À l'origine, il y a la plainte pour viol et agression sexuelle déposée en avril dernier par une jeune femme. Elle raconte que fin 2015, alors qu'elle était mineure, elle aurait été agressée par ce policier, chef de la sécurité intérieure dans les Ardennes, policier du renseignement, spécialiste de la radicalisation islamiste et de la lutte contre le départ de candidats au djihad. C'est d'ailleurs dans le cadre de ses fonctions qu'il a rencontré la plaignante. Et quand les enquêteurs du service d'inspection de la DGSI l'ont placé en garde à vue et saisi son téléphone et son ordinateur, ils ont découvert bien d'autres faits qu'il a en partie avoués, précise le procureur de Reims, Mathieu Bourrette.
Il reconnaît une relation avec cette jeune fille qu'il qualifie même d'incestueuse, estimant qu'il la considérait comme sa fille. Il nie tout acte de pénétration, reconnaît des attouchements, indique qu'ils ont toujours été consentis, ce qui vient en contradiction avec un certain nombre d'éléments que nous avons au dossier. Et il reconnaît une véritable addiction pour la pédopornographie, avec des consultations compulsives depuis 4 à 5 ans en matière de pédopornographie.
Des révélations stupéfiantes pour tous ceux qui connaissent ce commandant de police, marié, père de famille, un homme de 57 ans à la personnalité complexe qui se dit lui-même spécialiste de la manipulation. L'enquête se poursuit pour savoir s'il a pu faire éventuellement d'autres victimes. En attendant, il est mis en examen et incarcéré, placé en détention provisoire.
Merci Guillaume Biais du service police-justice d'Europe.
Y a-t-il une radicalisation, Pierre, dans les services publics ?
Alors oui, si l'on en croit le rapport parlementaire d'Éric Pouillard et Éric Diard, les deux députés rapporteurs de ce texte, leur conclusion, une radicalisation marginale, mais qu'il faut surveiller, Jean-Sébastien Soldaini.
Et qu'il faut surveiller dans deux secteurs, notamment les prisons et les transports. C'est le résultat d'entretiens menés depuis l'automne avec différents responsables de services publics. Ils pointent, disent-ils, des trous dans la raquette. Les prisons tout d'abord, où se trouvent 1100 détenus radicalisés et où des cas remontent de surveillants qui prient avec un détenu dans leur cellule. Le rapport pointe aussi le manque de suivi chez les femmes. Dans les transports, à la RATP, des hommes refusent toujours de dire bonjour aux femmes ou des agents de maintenance recrutés sans enquête préalable. Zone d'ombre aussi dans les aéroports parisiens, là où certains salariés suivis pour radicalisation ont pourtant accès à des zones sensibles. Ils seraient une centaine. Le rapport va au-delà du phénomène de radicalisation. Il évoque aussi la difficulté de se séparer d'un agent identifié comme radicalisé. Il parle aussi d'inquiétude dans le domaine de la santé. Ça reste toujours marginal, mais la ministre Agnès Buzyn affirme sur notre antenne qu'elle n'a pas eu de remontée en ce sens.
Merci Jean-Sébastien Soldaini.
Emmanuel Macron est à Tokyo, Pierre. Visite officielle en vue du G20.
Et le président a discuté ce matin avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Jean-Rémy Baudot, vous suivez le chef de l'État sur ce déplacement. Parmi les sujets, il a bien sûr été question de Renault-Nissan.
Oui Pierre, c'est bien de l'avenir de l'alliance Renault-Nissan dont Emmanuel Macron et le Premier ministre Shinzo Abe se parlent aujourd'hui ici à Tokyo.
L'alliance Renault-Nissan est évidemment un fleuron auquel nous tenons beaucoup.
La France, quelque peu fragilisée par les récents épisodes de ce dossier, contrainte de négocier une remise à plat de la gouvernance du groupe. Mais dans une formule assez peu diplomatique, le président Macron a rappelé ce matin le rôle qu'a joué la France en son temps dans le sauvetage de Nissan.
Les salariés du groupe, qu'ils soient japonais ou français, je crois qu'ils se souviennent tous du fait que c'est une grande entreprise française qui a sauvé cette entreprise japonaise. Et qu'il a sauvé avec le respect des traditions et des équilibres, et qu'on a constitué ainsi un géant et une force qu'il nous faut non seulement préserver, mais dont il faut développer les synergies et les alliances pour la rendre plus forte face à la concurrence internationale.
Quant au cas Carlos Ghosn, il devait être abordé entre les deux dirigeants, mais comme le confiait un proche du président, il y a plein d'autres dossiers bien plus importants entre la France et le Japon. Comprenez, il faut tourner la page du patron désormais controversé.
Merci Jean-Rémy Baudeau à Tokyo pour Europe 1. Cependant, sur Carlos Ghosn, Emmanuel Macron vient de dire cette phrase « Je suis attaché à la présomption d'innocence pour tous nos ressortissants ».
Il est 12h46, vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et la photo, Pierre, bouleverse le monde entier. Un père et sa fille morts noyés dans le Rio Grande alors qu'ils tentaient de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Cette image terrible de ce papa, de cette petite fille qui venait du Salvador pour espérer une autre vie, ce que certains appellent encore l'Eldorado américain. Évidemment, évidemment, Xavier, ce cliché rappelle une autre photo qui avait fait le tour du monde, celle d'Elan, ce petit garçon syrien mort sur une plage de Turquie.
Oui, on est saisi par le même sentiment d'effroi en regardant cette image. Les deux corps à moitié immergés, sur le ventre, visage dans l'eau, entouré de roseaux. La fillette est coincée dans le t-shirt de son père, son petit bras autour de sa nuque. Selon l'agence AP qui publie cette image, l'homme s'appelait Oscar Alberto Martinez Ramirez. Sa fille, Valeria, avait 2 ans. La famille venait du Salvador, fuyant la pauvreté et la violence des gangs. Et cette image terrible pourrait devenir le symbole de la crise migratoire aux États-Unis, tout comme celle du petit Syrien Eylan l'avait été pour l'Europe. En effet, les passages illégaux à la frontière avec le Mexique ont explosé ces derniers mois et les autorités américaines n'arrivent plus à faire face à l'afflux, notamment de mineurs. On a appris hier que des centaines d'enfants migrants avaient été détenus dans des conditions insalubres, pas de douche et les mêmes vêtements sales pendant des semaines, des bébés sans couche, de la nourriture à peine décongelée et pas de matelas pour dormir, juste le sol en béton. Ces révélations d'une ONG ont conduit hier à la démission du chef par intérim de la police des frontières et l'opposition démocrate dénonce, elle, la politique inhumaine de l'administration Trump qui a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité.
Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'UFC Que Choisir lance une action de groupe contre Google, motif violation du RGPD. Il s'agit notamment de l'exploitation insidieuse, dit l'association, des données personnelles de ceux qui ont un téléphone Android avec un compte Google. Pour cela, l'UFC demande 1 000 euros d'indemnisation.
Il est 12h48.
Europe 1. Une nouvelle pause et dans un instant, un restaurant, une équipe de foot américaine et des salles de ciné climatisé. À vous de choisir. À tout de suite. Il est 12h50 sur Europe 1, la suite du grand journal de la mi-journée avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et on commence par le restaurant, Pierre. Après tout, c'est l'heure du déjeuner et surtout cocorico.
Oui, enfin, quel mot, hein, le chef est argentin. Il a 3 étoiles au Michelin, c'est de la cuisine française. Hein. Il n'y a pas vraiment de carte.
C'est chez nous, c'est
oui,
chez nous.
C'est au gré des produits et de l'inspiration du chef, nous dit le site internet. Si on en parle, c'est parce que le Mirazur a été sacré meilleur restaurant du monde et son chef Mauro Colagreco est évidemment très ému.
C'est un moment inoubliable. Toute cette carrière, de mon départ depuis l'Argentine, en passant par les grandes maisons de cuisine française, il n'a pas été toujours facile. Tout ça qui passe en quelques secondes devant nous. Donc, c'est avec beaucoup de choix, beaucoup d'émotions et aussi de la responsabilité. Parce qu'on représente quand même une cuisine, il représente un pays. Le restaurant, il est dans un cadre idyllique, juste en face de la baie des Mentons. On va continuer à se mettre toujours en question et à essayer de faire de notre mieux.
Mauro Colagreco joint à Singapour par Romanoke. Pourquoi Singapour? Parce que c'est là-bas qu'a eu lieu cette cérémonie. Vous pouvez réserver votre table. La prochaine disponibilité, c'est le, j'en perds mes mots, c'est le 12 décembre.
Ah oui, faut pas être pressé. On a déjà la date.
Faut pas avoir faim.
On a le temps de préparer le budget. Le foot féminin, Pierre, avec un coup de projecteur aujourd'hui sur les joueuses américaines.
Adversaire de la France vendredi en quart de finale. C'est très rare que les Américaines acceptent de montrer un peu de leur jeu. Simon Rubin, l'équipe des États-Unis s'est montré plutôt relax devant la presse.
Oui, elles sont relaxées, tranquilles, relâchées, les Américaines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant et à la grande différence d'ailleurs, aussi bien de la sélection française que des autres sélections. On voit bien que les Américaines, elles sont détendues. Elles ont pris un petit café, là, les joueuses, avant de rejoindre la salle de conférence de presse. Elles sont arrivées en short et en claquettes, pas de tenue officielle, pas de survêtement intégral et pas non plus ce décorum très solennel, très cadré qu'on peut d'ailleurs observer par exemple à avec l'équipe de France. Ici, on rigole, les joueuses sont très ouvertes, il y a un rapport aux médias qui est beaucoup plus, j'allais dire, naturel, sympathique, ou en tout cas qui est beaucoup plus ouvert. Et puis, les Américaines, même quand on entre un petit peu dans le détail avec elles, quand on discute par exemple du dernier match qu'elles ont joué contre les Bleus et qu'elles ont perdu, bah, elles nous répondent que c'est pas un problème, que là, c'est vraiment un autre contexte, qu'elles sont sûres de leur force. Alors, certains y verront peut-être de l'arrogance. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que les États-Unis, c'est une équipe vraiment avec des joueuses fortes et qui savent qu'elles sont fortes, qui sont conscientes de leur propre force.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
C'est mercredi, on va donc voir ce qu'il y a dans les salles de cinéma climatisées. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Deux films au programme et on commence par le quatrième volet de la saga Toy Story.
Oui, cette fois le cow-boy Woody et tous ses amis dont Buzz l'éclair sont la propriété de Bonnie, charmante petite fille qui rentre de son premier jour à l'école et revient à la maison avec un nouvel ami, figurez-vous, une fourchette cuillère de pique-nique, vous savez, en plastique blanc là, qu'elle a pimpé et qui prend vie, elle aussi. Toute la bande de Woody est en émoi, va-t-elle prendre leur place? Mais cette fourchette, elle, elle n'a qu'une idée en tête, à retourner dans la poubelle. Sauf que Woody ne veut pas la laisser partir, car elle a bien compris qu'elle était devenue le jouet préféré de Bonnie. Voilà. Alors je vais vous dire, on y parle toujours d'amitié, de transmission, c'est très rythmé. Il y a également, époque oblige, une femme qui prend le pouvoir, une bergère qui manie le bâton, attention. Et puis pour les adultes, un petit hommage à Shining et ses poupées tueuses. Voilà, donc en famille, n'hésitez pas, super moment. Mais surtout, revoyez le premier Toy Story qui avait révolutionné le monde de l'animation. C'est toujours
ça
un
fait,
vrai plaisir.
Ça fait peur aux enfants ou pas? Vous me parlez de Shining, là. Non, mais je vais quand même pas emmener Roman qui a 6 ans.
Si Roman ne sera pas... Bon. Traumatisé.
C'est okay. Juste un clin d'œil.
Alors, un autre film complètement déjanté, ça s'appelle Yves avec Philippe Catherine.
Oui, parce que Yves, il fait 1m80, il est carré, il fascine les filles, il a gagné l'Eurovision, il a triomphé à Cannes, sauf qu'Yves est un frigo intelligent, bourré d'intelligence artificielle, mais c'est un frigo. En fait, William Lebdil est un rappeur complètement raté, Philippe Catherine joue son agent, et il va être sélectionné pour tester ce frigo intelligent qui fait à peu près tout à votre place, hein, c'est-à-dire qu'il commande vos cours
en
fonction de ce qui est bon pour votre santé, et puis il compose aussi de la musique, puisqu'il va aider William Lebdil à booster un petit peu son titre phare qui s'appelle Carrément rien à branler, ça promet.
Ouais.
Il y a donc le côté comédie amusante qui nous fait bien rigoler, mais aussi ce qui fait un petit peu peur et ce qui interroge, c'est qu'on en est plus très loin, vous savez, de ce frigo qui pourrait contrôler notre vie avec
pas
toutes ces applications.
Non, là, non. Pas Shining, ça, mais c'est 2001, l'idée de l'espace.
Avec les applications qui vous disent quoi manger, l'intelligence artificielle qui est déjà, vous savez, au service de la musique. Mmh. Voilà, c'est signé Benoît Forgeard. Ça tourne un petit peu en rond à la fin, mais franchement, les deux premiers tiers sont plaisants. Je mets 2 sur 5 à Yves, 3-5. À Toy Story.
Beaucoup de Kubrick hein, de votre cinéma aujourd'hui. C'est merci ça. Mathieu Charrier.
On va peut-être retrouver Yves dans La France Bouge un jour, Raphaël, de 13h à 14h.
Ouais,
ce frigo intelligent.
Très bonne idée, en tout cas l'appel est lancé.
Europe 1.
Restez avec nous, on ne va pas retrouver Yves tout de suite, mais tout à l'heure vous parliez de RGPD justement. Eh bien, si on a envie de dire stop à Google, à Facebook, on a trouvé des solutions françaises qui vont probablement vous séduire. On vous attend.
Et c'est le moment de faire un point sur les températures qui grimpent, Raphaël Duchemin.
Ouais, 65 départements en vigilance orange canicule. Elena, on devrait en savoir un petit peu davantage ce soir et en avoir qui vont venir aussi se rajouter.
La pluie s'intensifie en effet, elle gagne du terrain vers les rivages méditerranéens ainsi que vers le sud-ouest avec des valeurs affolantes cet après-midi et ce soir. Or ce soir on devrait être autour de 70 voire 75 départements en vigilance orange canicule. Or les températures affichées à l'ombre, hein, c'est toujours à l'ombre que je vous les donne, elles iront cet après-midi jusqu'à 41 degrés pour Clermont-Ferrand, pour Limoges, pour Brive-la-Gaillarde, 40 à Montluçon, c'est vraiment le cœur de la France, et Auxerre, 39 à Bordeaux, Lyon et Grenoble, 38 à Strasbourg et Besançon, 37 à Paris intramuros, 35 en Île-de-France, 37 aussi à La Rochelle ou encore à Marseille. Plus frais sous les dernières averses qui circulent en ce moment sur la Bretagne et le Cotentin avec 21 à 26 degrés. On a eu pas mal d'orages hein, encore ce matin en Bretagne. Et puis en dehors de ces nuages, eh bien, ce sera du plein soleil partout. Alors attention, les températures elles vont s'intensifier demain, vendredi et encore samedi, notamment sur l'Île-de-France. Déjà cette nuit, Raphaël, les températures ressenties cette fois tourneront autour de 39 à 45 degrés, 45 ce sera pour Besançon, des nuits courtes, une atmosphère qui n'a pas le temps de fraîchir. La fin de cet épisode caniculaire se fera progressivement entre samedi et lundi pour les dernières régions.